Je crois en l'histoire parce qu'elle procède du principe de réalité. Et comme il y a eu la dynastie des Bach en musique, comme le prix Nobel a couronné 5 fois le nom de Curie, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui, ici et maintenant, Madame Michelle Freud, arrière-petite-fille du grand Sigmund. Madame.
Merci. Je tenais tout particulièrement à remercier Chantal Catalayud pour l'organisation de ce salon et puis aussi de m'avoir invitée au premier salon du livre psy, toute son équipe et surtout pour le fait d'avoir de continuer à promouvoir la psychanalyse et surtout de l'ouvrir. J'ai entendu hier la notion d'ouverture à la psychanalyse. Bien sûr, il y a des personnes qui ont fait quelques remarques par rapport à des disciplines qui se trouvaient là et qui n'étaient pas forcément reliées à la psychanalyse. À mon sens, elles le sont toutes, dans la mesure où je pense que Sigmund a voulu certainement l'ouverture, a été l'un des premiers, bien sûr, à s'intéresser à la psychanalyse, au corps également, bien que ses détracteurs aient dit que le grand oublié dans la psychanalyse, c'est le corps. Or, c'est quand même lui qui a écrit que le moi est avant tout un moi corporel. Le symptôme était quand même dans le corps. En psychanalyse, il est vu, il est interprété. Le parallèle que l'on peut faire avec la sophrologie, c'est qu'en sophrologie, il est vécu, puisque la sophrologie, c'est un grand principe de corps vécu, de réalité vécue. Alors, dans ma famille, la psychanalyse était taboue. Mon père m'a fait suivre un cursus de droit, donc mon parcours est un petit peu atypique dans la mesure où j'ai été juriste, j'ai fait une carrière en droit international, et puis à 35 ans, je me suis offert un super passage à l'acte. Bien sûr, tout ce qui est interdit suscite le désir, suscite l'intérêt. Alors je lisais en cachette les œuvres de Freud, pensant qu'il y avait peut-être quelque chose de honteux là-dedans et que j'y découvrirais peut-être un secret de famille. Et puis, je me suis beaucoup intéressée en tant que candidate libre. Tout en suivant la faculté la faculté de droit de Strasbourg, j'ai eu la chance de participer à toutes les conférences de Lucien Israël, aujourd'hui décédé. Et c'est vrai que je me suis toujours intéressée à la psychanalyse. J'ai fait ma propre psychanalyse à 20 ans par curiosité intellectuelle et sans doute que j'avais également un sac à dos qu'il fallait déposer, c'est même certain. Et donc à 35 ans, je me suis intéressée à cette dimension corporelle qu'est la sophrologie, trouvant une dimension beaucoup plus maternante et je dirais spirituelle aussi. Alors ça peut vous paraître pour les psychanalystes un petit peu étonnant, corps, spiritualité, Wilhelm Reich, Jung, qui se sont intéressés et qui ont été en dissonance avec Freud. Alors écoutez, s'il y a des psychanalystes ici, je vous laisse interpréter, est-ce que c'est une tentative de réhabilitation inconsciente, est-ce que c'est un désir d'ouverture, je vous laisse le soin de l'interprétation. Voilà, alors le sujet étant donc la sophrologie. La sophrologie a été créée dans les années 60 par un psychiatre d'origine colombienne du nom d'Alfonso Caicedo, fruit de son expérience. Vous m'entendez là ? C'est bon ? Fruit de son expérience en tant que psychiatre et également de ses nombreux voyages en Inde. Il a étudié la sophrologie et l'a définie comme la science de la sérénité de l'esprit. Son étymologie est grecque, sos, qui signifie paix, harmonie, sérénité, phrène, esprit, conscience, cerveau, et logos, qui est donc l'étude, discours, ce qui donne l'étude de l'harmonie de la conscience. Alors, pour les gens qui connaissent un petit peu la sophrologie, comme toute discipline nouvelle, il y a eu bien sûr des courants. Il y a le courant de la faculté de sophrologie, de l'école française de sophrologie, qui a été, les instigateurs ont été Donars, Jacques Donars, Abrezolle, et puis aussi Jean-Pierre Hubert. Alors aujourd'hui, il y a le courant des caïcédiens, il y a le courant français, et puis les uns, enfin ce sont des véritables querelles de clochers auxquelles je n'adhère pas. Hein, j'ai suivi mon propre chemin, j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait chez les caïcédiens. S'appeler Freud et dire que l'inconscience est la boîte noire m'a effectivement heurtée. Donc j'ai plutôt été étudier la sophroanalyse, les techniques découvrantes dans des écoles, notamment l'école française de sophrologie. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et personnellement, lorsqu'on me demande où j'en suis, je réponds en chemin. Parce que le chemin est très long, et il y a de la place vraiment effectivement pour tout le monde. Le chemin est long, il est tortueux, il est sinueux. Et je crois que ce qu'il faut surtout, quel que soit le domaine d'application, c'est une grande humilité, une grande écoute. Donc, pour revenir à la sophrologie, Caicedo a étudié, pour arriver à cette harmonie de la conscience, il a étudié des états de conscience et des niveaux de conscience. Il est parti du principe qu'il y avait trois états de conscience possibles. La conscience pathologique, c'est un état d'altération de la conscience qui va de la névrose à la psychose, en passant par toute une série d'états intermédiaires. La conscience ordinaire, c'est l'état dans lequel on se trouve, plus ou moins avec des problèmes auxquels on arrive à faire face, sachant qu'on n'est jamais dans le même état de conscience. On peut basculer de manière transitoire ou permanente dans la conscience pathologique. On n'est pas toujours dans une forme éblouissante. Et la conscience sophronique, c'est un état que l'on peut atteindre principalement à travers un entraînement en sophrologie. Donc ça, c'est en ce qui concerne les états. Il y a un certain nombre de niveaux de conscience. Pour pouvoir abaisser son niveau de conscience et aller vers cet état de conscience sophronique, c'est-à-dire de sérénité de l'esprit, on va commencer par abaisser son niveau de vigilance. La veille attentive, c'est l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant. Plus vous avez abaissé votre niveau de vigilance, plus vous allez aller vers un état qui s'appelle la veille. C'est le niveau que vous traversez, par exemple, que vous connaissez après un bon repas. On est plutôt en état de veille. Et le niveau sophroliminal, ce niveau, vous le connaissez également bien, puisque vous le traversez deux fois, le soir, juste avant de vous endormir, et le matin, au réveil, lorsque on est juste sur le point de se réveiller ou de s'endormir. C'est ce niveau-là qui est intéressant et que l'on étudie en sophrologie, parce que sans l'atteinte de ce niveau, on ne peut pas accéder au choix d'une technique. Ce niveau, il est hypnagogique. Il est proche du rêve éveillé. Sigmund Freud disait d'ailleurs que c'est un niveau transitoire, hein, c'est un niveau de transition. Il est proche du sommeil également. Ce niveau est fluctuant, il est sinueux. Quelquefois, nous sommes totalement dans le ressort du conscient et quelquefois pratiquement dans le sommeil. Donc, vous voyez, toute cette partie-là, c'est le ressort du conscient. Lorsqu'on aborde ici, on est plus dans l'inconscient. Et on se servira justement de cette technique-là pour accéder à d'autres techniques qui sont ce qu'on appelle des techniques découvrantes. Et en cela, cela diffère effectivement de la théorie de Caicedo. Alors, comment accéder à ce niveau de conscience? Vous avez vu que on va se situer ici, à peu près dans la conscience ordinaire. On va faire ce petit chemin-là, on va abaisser son niveau de vigilance pour aller vers ce niveau sophroliminal. On y séjourne le temps de la séance. On peut simplement utiliser cette technique-là à titre de relaxologie et on en ressort, non dans l'état de conscience ordinaire, mais dans un état de conscience harmonieux, c'est-à-dire donc la fameuse conscience sophronique. Alors, comment aller de là à là et ressortir dans le niveau de conscience sophronique? Tout simplement, à travers ce qu'on appelle le terpnos logos, c'est-à-dire la voix lente et monocorde du thérapeute qui va amener la personne à se détendre. On va donc segment par segment détendre le corps et ensuite arriver à une relaxation mentale pour accéder à ce niveau sophroliminal appelé aussi le niveau alpha, la zone X, etc. Et on en ressort. Donc, soit on utilise ici une technique que l'on appelle recouvrante, c'est-à-dire l'activation du positif pour tout ce qui est du ressort de certaines. Il y a des personnes qui ont énormément de difficultés à être positives, à se visualiser. Notamment, je pense à des. Je travaille beaucoup sur les problèmes de poids, de minceur, problèmes au niveau du schéma corporel. Eh bien, on peut effectivement demander à la personne de se projeter avec l'image d'elle ou le schéma corporel dans des techniques de visualisation positive. Ça, c'est pour tout ce qui est du recouvrant. Et en découvrant, eh bien, on va accéder ici grâce à ce matériel auquel on n'aurait pas conscience en état d'éveil. Il peut y avoir ici émergence de tout un matériel donc, auquel on n'a pas accès à l'état d'éveil. Et ce sont des techniques découvrantes qui peuvent être la sophroanalyse, des techniques de rêve éveillé, des voyages symboliques et également des techniques de sophromnésie qui sont tout à fait intéressantes. D'ailleurs, il y a des psychiatres qui nous envoient des patients lorsque la thérapie classique piétine, tout simplement à travers quelques séances, avoir accès justement à ce matériel enfoui. Donc ça, c'est tout à fait intéressant et passionnant, et c'est justement cette dimension-là qui me passionne dans la sophroanalyse et dans la sophrologie. Et ensuite, on ressort, donc sortie de cette zone, préparation mentale de la sortie, éveil physique, et puis ensuite, bien sûr, dialogue, puisque le dialogue est absolument fondamental pour connaître d'une part le feedback de la séance et puis recueillir un témoignage que l'on peut éventuellement, bien sûr, avec la personne interprétée, analyser, si telle est notre spécialité. Alors, il y a trois indications dans la sophrologie, à la sophrologie que l'on utilise à titre prophylactique. C'est uniquement du ressort donc de la relaxologie, lutte contre le stress, prévention des maladies fonctionnelles. Il y a la préparation, il y a tout ce qui est du ressort de la pédagogie, c'est-à-dire préparation à l'accouchement, préparation aux interventions chirurgicales, au sport, aux examens. J'ai eu la chance de m'occuper d'une équipe de sportifs de haut niveau et qui est arrivée à un état de transcendance. Bien sûr, ils n'ont pas dit que c'était la sophrologie, parce que sinon tout le monde en aurait fait. Mais c'était tout à fait intéressant de voir à quel point cette technique leur a permis. Noah, d'ailleurs, a utilisé la sophrologie sans le dire, hein, pour amener son équipe aussi bien masculine que féminine à des états de très très performants. Alors, elle est utilisée en complément thérapeutique pour la fatigue, la migraine, l'insomnie, l'anxiété. On l'utilise beaucoup pour les problèmes de phobie, phobie d'avion, phobie d'ascenseur, agoraphobie, etc. Poids, sevrage tabagique. Alors, comment ça fonctionne? Prenons l'exemple d'une phobie, par exemple une phobie d'avion. On va, dans ce fameux niveau sophroliminal, en ayant opté, donc, une fois que la personne a abaissé son niveau de vigilance, se trouvant dans ce niveau sophroliminal, on va utiliser, la première des choses que l'on va faire, c'est visualiser, lui demander de se visualiser en sortant par exemple de l'avion, pour une phobie d'avion. Pourquoi ? Le mental ne fait pas la différence entre ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Si on lui donne une image positive, eh bien ensuite elle va pouvoir accepter les autres images qui vont venir. Donc on va commencer par lui donner l'image d'elle sortant de l'avion, avec l'ancrage des pieds bien au sol en sortant de l'avion, et puis ensuite toute une série d'étapes, c'est-à-dire elle va partir, donc on va revenir juste avant le fameux jour J, et toutes ces étapes, c'est-à-dire elle va sortir de chez elle, elle va prendre la voiture ou le taxi pour aller à l'aéroport, et toutes ces étapes, on va les vivre dans ce niveau sophroliminal, avec toujours l'acceptation positive. Donc c'est ce qu'on appelle la sophro-correction sérielle, c'est-à-dire par étape, avec l'acceptation effectivement d'elle, toujours avec je monte dans l'avion, je m'installe, etc. En reformulation, puisqu'on va lui demander quelles sont ces images et ces ancrages positifs. Et puis, bien sûr, l'association de la visualisation d'une part et aussi de la respiration. La respiration, c'est la base de tout état de détente. La plupart des personnes que nous rencontrons ont une respiration haute, une respiration saccadée, c'est la respiration du stress. Lorsqu'on demande à une personne comment elle respire, c'est une question qui lui paraît souvent un petit peu étonnante. Eh bien, la plupart du temps, les personnes respirent avec le haut du corps. Je vous demande simplement de, pendant juste une petite seconde, de vous concentrer sur votre respiration. Juste une seconde. Inspirez et expirez. Essayez de visualiser si votre respiration, ou de sentir si elle est abdominale ou si elle est haute. Souvent, cette respiration est haute. Pour quelle raison ? Les orientaux parlent du ventre comme du centre de la sérénité. Regardez les Bouddhas, ils ont des ventres impressionnants, une espèce de sagesse, hein, puisqu'on dit que le ventre, c'est le centre de la paix, le centre de la sagesse. Eh bien, chez nous, les Occidentaux, le ventre serait plutôt un sac à refoulement. Tout est contenu ici, nos peurs, nos angoisses. Je me souviens d'une personne que j'avais reçue il y a quelques années qui dirigeait une société elle vendait des articles de cuir et elle avait vécu au moins 6 braquages en 2 ans. Et elle ne respirait pas. Impossible de la faire respirer avec son abdomen. Et lorsque je lui ai demandé de se concentrer sur sa respiration et d'essayer de respirer en libérant son abdomen, elle a eu une réponse tout à fait symbolique. Elle a dit, mais vous vous rendez pas compte, si je me mets à respirer avec mon ventre, mais je les tue. Hein, c'était une manière effectivement de dire que tout était tu ici, hein, c'est-à-dire tout était bloqué. Regardez les petits enfants, ils respirent avec leur ventre. À quel moment se mettent-ils à respirer avec le haut du corps ? Eh bien, au moment de l'âge préscolaire, lorsqu'ils entrent à l'école, à la petite école, ils commencent effectivement, ils lâchent la main de la maman, hein, et puis il y a les petits copains tout autour, donc ils ne veulent pas trop pleurer, ils pleurent quand même, mais ils retiennent. Et puis c'est à ce moment-là qu'ils commencent à avoir une respiration haute, une respiration superficielle. Quand nous dormons, nous avons une respiration abdominale, c'est-à-dire que nous lâchons prise. C'est vrai que cette respiration bloquée, c'est également un mécanisme de défense. Nous sommes dans la rétention, nous bloquons nos énergies. Et une énergie bloquée est une énergie qui, effectivement, ne circule pas. C'est la raison pour laquelle il y a tout ce processus aussi de somatisation, des blocages énergétiques au niveau de la gorge, au niveau du plexus solaire. Chez les hommes, on dit que ici c'est tout le centre de l'affectif. Chez les femmes, c'est toute la sphère abdominale. Eh bien, cette respiration-là, Maître Deneuve, Peter Deneuve, qui était un guide spirituel, a étudié plus de 100 techniques respiratoires et a dit que si l'être se donnait la peine de se concentrer chaque minute, ne serait-ce que 5 à 10 minutes sur sa respiration, eh bien, il n'aurait plus aucun processus de somatisation. Il permettrait justement à l'air de rentrer, ce fameux prana, de circuler et de créer ce qu'on appelle des états d'inspiration, des états qui sont des états effectivement de bien-être, hein, d'équilibre. Donc, il est important effectivement de passer du temps à cette respiration et de se concentrer sur cette respiration parce que c'est une ouverture. C'est une ouverture à soi, c'est une ouverture au monde, c'est une ouverture aux autres aussi. Donc vraiment, j'ai développé d'ailleurs tout un processus de petites cassettes audio et de CD audio. Je travaille également j'ai oublié de vous dire un petit peu de vous parler de mon parcours aujourd'hui. Je fais beaucoup de formations, je forme des sophrologues à travers la France, une ouverture également sur le Canada, puisque je vais l'année prochaine probablement intervenir à l'Université de Montréal pour ouvrir la sophrologie. Sur la sophrologie, et puis l'écriture, et j'interviens également dans un centre à Port-Fréjus, qui est un centre de thalassothérapie, où j'anime des ateliers en collaboration avec Geneviève Vermeil, qui est ma collaboratrice, qui est ici également, et qui s'occupe, elle, qui est également maître praticien en PNL, et nous animons donc des ateliers de gestion de stress, des ateliers également diététiques et de poids, puisque j'ai également j'ai étudié également la diététique il y a une vingtaine d'années. Donc, nous mettons en place dans ce centre, nous donnons aux gens, pendant toute la durée de la cure, des petites cassettes et des CD audio, et ils peuvent, pendant une semaine, justement s'intéresser à cette discipline qu'est la sophrologie et surtout à respirer, puisqu'il y a toute une partie, j'apprends à respirer, j'apprends à me détendre. Donc, c'est vraiment sans prétention aucune, mais souvent les gens nous disent, entre le premier jour et le dernier, mais c'est absolument extraordinaire, c'est très simple, on n'y avait pas pensé, c'est simplement respirer et se détendre. Et c'est un outil aujourd'hui que l'on utilise de plus en plus. Nos moyens de communication sont multiples, importants, mais on oublie une chose, hein, on oublie de se parler, on oublie aussi de s'entendre et d'écouter son corps. On pense Je dirais, à son corps, on y pense souvent et en même temps jamais. On y pense souvent pour se dire, oh là là, j'ai des rides, j'ai de la cellulite, etc., etc. Mais on oublie simplement de se poser pour reposer son corps. En fait, il a besoin de quoi, le corps? Il a tout simplement besoin de se recharger. Et nous le conduisons souvent comme une voiture, c'est-à-dire à 100 à l'heure, un peu comme le compte en banque. Hein, on recharge, on tire sur ce compte en banque sans le recharger. La sophrologie a tout simplement cette vocation-là, c'est-à-dire de nous détendre, de nous relaxer. Alors, il y a cette autre dimension dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la sophroanalyse. C'est une dimension beaucoup plus découvrante. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle est dans cette zone-là, dans cette zone alpha, dans ce niveau sophroliminal, on va l'emmener à travers un rêve éveillé, un voyage, pour aller explorer donc cette dimension que l'on appelle découvrante, cette dimension proche, donc inconsciente, et à travers l'analyse de symboles, si telle est bien sûr notre spécialité, eh bien, on va avec elle essayer d'interpréter tous ces symboles. J'ai découvert également dans la sophrologie cette dimension spirituelle, et Caicedo a eu ce grand mérite de créer ce qu'on appelle la relaxation dynamique. La relaxation dynamique est une sorte de philosophie de vie. Il est parti du principe là aussi que ce schéma, vous le connaissez peut-être, puisque c'est le schéma de l'homme total équilibré sur les trois étages, c'est-à-dire le physique, le psychique, le spirituel. Vous le retrouvez également dans d'autres. Par exemple, on a travaillé sur les fameuses cuirasses, les cuirasses reichiennes. Lowen a travaillé sur la bioénergétique. Eh bien, c'est également l'équilibre entre ces trois étages, sans clivage entre les étages. Alors, la relaxation dynamique premier degré, qui concerne le monde du réel, le monde physique, c'est la levée des blocages. C'est la levée des blocages à travers la respiration, à travers des techniques issues du yoga, le grounding, la prise de conscience de schémas corporels. On va activer les cuirasses à tous les étages de manière à faire en sorte que cette énergie circule partout dans le corps. À partir du moment où on a levé les blocages, on va travailler donc sur le moi, sur le je, J-E. Hein. On va lever les blocages pour accéder à ce monde du psychique, à ce monde de l'affectif, à ce monde sensoriel. Le moi sujet va devenir un moi objet. C'est le travail sur le monde du symbole. Et une fois que l'on a accédé à ce monde de l'affectif, on peut s'ouvrir à ce monde de l'imaginaire qu'est le spirituel, c'est-à-dire la méditation. Le non-moi, le silence. Alors bien sûr, tout ça se fait, je dirais, un peu dans la douleur, parce que ce n'est pas facile. On ne peut pas accéder au monde psychique, à l'affectif et au spirituel, sans avoir, je dirais, travaillé sur son physique, c'est-à-dire sur le corporel. Et à tous les étages, effectivement, il y a ces nœuds qu'il y a lieu de délier pour que cette énergie puisse circuler. Donc c'est un travail passionnant, intéressant. On va faire ici ce qu'on appelle la RD1, relaxation dynamique premier degré, issue de l'hindouisme, issue du bouddhisme, issue du zen. Donc 1, 2, 3. Et on va faire ce parcours-là, premier degré, deuxième degré, troisième degré, en passant par ce parcours méditation spirituelle. Et surtout, on va revenir ici et maintenant, puisque nous sommes quand même dans le monde du réel, nous sommes dans le carré, dans le présent, venir vivre ici et maintenant, dans son présent, fort de l'expérience que l'on a vécue ici et surtout ici. Ça ne sert à rien d'aller au Tibet et de rester dans des états méditatifs alors que nous vivons ici dans le réel et dans un brouhaha. Mais ce qui est intéressant, c'est de puiser l'énergie et une force suffisante que l'on a recueillie ici, dans cette dimension spirituelle, pour revenir ici dans notre carré, vivre ce que l'on a à vivre. Voilà en ce qui concerne cette philosophie de la relaxation dynamique qui mène à la spiritualité. Et en ce sens-là, effectivement, la dimension spirituelle en sophrologie est non négligeable. Et je crois que de plus en plus, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, avec ces stress permanents auxquels nous sommes soumis, cette dimension, elle est fondamentale. En ce qui me concerne, je l'ai découverte il y a une quinzaine d'années. Et comme je vous disais en début de cette petite présentation. Nous sommes tous en chemin. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ce qu'est la sophrologie. Et bien sûr, je suis tout à fait ouverte et je suis tout à fait heureuse de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser par rapport à ce parcours en sophrologie et mon parcours. Et je voulais vous dire aussi un petit mot par rapport à ce tabou dans la famille. Pourquoi par rapport, j'ai un petit peu réfléchi à cela. Ernest, qui était mon grand-père, qui était donc le fils cadet de Sigmund, exécuteur testamentaire et architecte, est parti bien avant tout le monde et a quitté Berlin pour préparer l'arrivée de Sigmund à Londres. Il a trouvé la maison qui est aujourd'hui à Mariensfield Garden, dans laquelle se trouvait également Anna, ma grand-tante. Et cette maison, il y a pris un grand soin. Il a voulu que son père y passe ses derniers moments dans les meilleures conditions possibles. Je vous engage d'ailleurs vivement, si vous êtes à Londres, d'aller voir ce musée cette maison qui est très belle. Et en fait, je pense que la psychanalyse a en fait beaucoup accaparé mes grands-parents. Il y a un très bel ouvrage qu'ils ont écrit qui s'appelle en allemand, qui a été traduit en anglais. Je pense qu'il n'existe pas en France, mais si vous allez tant au musée de Londres qu'au musée de Vienne, vous allez probablement le trouver et pouvoir le feuilleter. C'est un très beau livre d'images avec des souvenirs très émouvants. Sa vie, son œuvre, écrit donc par ma grand-mère Lucie aussi, dont je porte le deuxième prénom. Et en fait, la psychanalyse a beaucoup accaparé mes grands-parents. Et je pense que mon père a dû probablement, il avait 8 ans lorsqu'ils ont quitté l'Allemagne. Elle a accaparé donc toute la famille et elle a un peu volé finalement ses parents. Donc pour lui, c'était vraiment tabou. En fait, c'est ce que j'ai cru comprendre, ce qu'il n'a jamais dit, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Voilà pour la petite histoire familiale. Je vous remercie de votre écoute.
Je pense qu'il va y avoir des questions.
Oui, merci. Est-ce que vous voulez bien revenir un petit peu sur ce que vous avez... Est-ce que vous voulez bien revenir un instant sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur cette partie qui vous différencie de Caicedo, mais cette partie du travail que vous avez appelée la dimension découvrante, je crois. Oui. Est-ce que vous voulez bien revenir là-dessus? Simplement un petit peu en pratique. Moi, je n'ai pas compris... je ne connais pas ça. Je connais un petit peu la sophrologie, mais en tant que... pour avoir moi-même pratiqué la sophrologie, mais je n'en ai jamais reçu d'enseignement. Donc je retrouve là des choses pratiques que j'ai pu vivre, et avec des noms mis sur des sentiments qui m'évoquent quelque chose. Mais par contre, quelle est la place du langage dans cette partie-là, dans ce moment où la personne est au niveau sophroliminal, mm-hmm. et dans la dimension que vous avez décrite, oui. vous, à ce moment-là, est-ce que le langage, vous l'utilisez? Ou pas.
Alors, le langage, bien sûr qu'on l'utilise dans la mesure où on emmène la personne dans ce niveau sophroliminal grâce à la parole, grâce au terpnos logos. Mais la personne a la possibilité, effectivement, si on la faisait parler dans ce niveau, on la fait parler dans ce niveau en hypnose, par exemple. Là, on utilise la sophroanalyse et l'hypnose analytique où on la fait parler dans ce niveau-là. Mais en sophroanalyse, on considère que le niveau est moins profond qu'en hypnose, donc on va communiquer avec elle à travers des signes, qui sont par exemple l'index signal, lorsqu'elle vit quelque chose, de manière éventuellement à lui laisser le temps de l'abréaction, à ce qu'elle puisse abréagir, à ce qu'elle puisse vivre son émotion. Alors le langage est utilisé effectivement là, c'est-à-dire au moment de la sortie de ce niveau, mais on peut très bien, si l'émotion est trop forte, s'il y a une abréaction trop importante, on peut effectivement la faire parler dans ce niveau-là. Donc c'est tout à fait intéressant comme technique parce qu'elle permet d'aller encore plus profondément. Mais la personne qui vient nous voir n'a pas forcément envie d'accéder à ce niveau découvrant. Si avec des techniques toutes simples, on peut arriver à lui donner ce que je dirais une petite ordonnance de bien-être, pourquoi l'amener à remanier quelque chose ou à abréagir quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire? Alors bien sûr, vous pourrez peut-être dire, ou les psychanalystes pourront dire, c'est de la répression symptomatique. C'est tout à fait vrai. Mais cela dit, nous sommes toujours dans l'écoute de la personne et nous allons où elle désire faire aller et non où le thérapeute veut aller. Hein, je crois que souvent lorsqu'on me demande qu'est-ce qui fait que l'on est un bon thérapeute, eh bien j'ai toujours envie de répondre, c'est d'avoir fait le deuil de sa toute-puissance. Parce qu'en fait, bien que le patient qui vient vous voir pense que nous détenons le savoir, je crois que ce qui est important de savoir, c'est que nous, d'ailleurs Platon l'a bien expliqué, Platon disait, lorsque l'un de ses disciples disait « Oui, mais toi, tu détiens le savoir. » Et Platon a répondu « Moi, il y a une chose que je sais et que tu ne sais pas, c'est que moi, je sais rien. » Et en fait, si on applique cela, c'est vrai que nous sommes tout petits parce qu'il y a une personne qui sache, c'est le patient. Hein, c'est lui qui sait. Donc, c'est l'amener à découvrir justement quelque chose. S'il n'a pas envie d'y aller, ben, on n'y va pas. Hein. Voilà.
Autre question ?
Cette ouverture nécessaire et actuellement il y a une querelle de clochers et je parle pour moi, j'ai décidé justement de me nourrir aux différentes sources de façon à pratiquer une sophrologie découvrante quand nécessaire et avec une approche la plus efficace à partir de ce que la personne est venue chercher, quelle est sa demande. Et voilà, donc vous m'avez aujourd'hui des éléments intéressants.
Vous savez, merci. C'est effectivement merci pour ce témoignage parce que effectivement il y a eu une énorme de clés. Caicedo aujourd'hui, encore une fois, je n'appartiens à qu'une école. Mais Caicedo a dit la sophrologie c'est moi. C'est comme si Sigmund Freud avait dit la psychanalyse c'est moi. Hein, c'est une fermeture. Donc aujourd'hui, on s'ouvre. Hein, on a une demande, effectivement, dire que le conscient, la boîte noire, ça veut dire qu'on n'a pas de conscient. Donc n'oublions pas que Caicedo est un psychiatre non analysé et que il n'a pas voulu aller au-delà, mais en tout cas je me suis intéressée à cet autre courant, Jacques Donnars, Kahn et Hubert, qui ont eu le grand mérite effectivement, à partir du moment où on atteint ce niveau entre veille et sommeil et de l'inconscient, de dire peut-être qu'on peut se servir de ce fameux niveau pour qu'il y ait émergence d'autres choses, de ce fameux on verrait lorsqu'on étudie notamment l'hypnose, on va travailler sur le subconscient, ce qui est conscient, faiblement conscient, et ensuite également l'inconscient. Et ces techniques sont absolument intéressantes. Elles sont intéressantes dans la mesure où tout ce matériel auquel on n'a pas passé ici dans ce niveau de veille attentive. Donc vraiment, je vous engage vivement à continuer. Et puis, encore une fois, nous avons dans notre caisse à outils beaucoup de techniques. Plus en tant que thérapeute, on a de techniques, plus on peut aller dans la demande et du patient. Encore une fois, dans sa demande. D'autres questions ?
Oui, je vous ai donc demandé tout à l'heure au stand. J'aurais aimé que vous insistiez un peu plus sur l'atypique de la sophrologie, puisque
oui, ben je viens d'en parler là. C'est-à-dire
un peu plus loin.
Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a la sophro-analyse, il y a la sophromnésie et il y a la sophro-onirie. Alors, ces trois techniques, par exemple, la sophro-analyse. La sophro-analyse peut être un voyage dans ce fameux niveau sophro-final, un fameux voyage. On peut utiliser dans la sophro-analyse ça utiliser dans le ning autotone supérieur. C'est-à-dire on va travailler ces symboles, il y a un nombre de mots comme et alors c'est très très intéressant parce que on lance un mot dans ce fameux niveau sophroliminal, on demande à la personne de perlaborer à travers ce mot et on la sort de ce niveau. Et on discute, c'est-à-dire prenons le premier mot qui peut être par exemple citron. Je prends citron. Qu'est-ce que le mot citron évoque pour vous ? Et je vous garantis que dans la problématique de la personne, lors de la première séance, on y a accès immédiatement. Donc les mots sont des supports. Ensuite, on replonge la personne dans ce fameux niveau sophroliminal et elle perlabore à nouveau sur le même mot. Elle en ressort, à nouveau discussion. qu'est-ce que ce mot évoque pour vous, éventuellement, si on a le temps, une troisième fois. Ça, c'est donc pour le travail en sophroanalyse. Ensuite, il y a le travail en sophromnésie, c'est-à-dire qu'on va travailler en tranche d'âge. La personne aujourd'hui, imaginons qu'elle ait, elle ait 40 ans, et on va travailler sur des tranches d'âge. On va remonter à ses dates anniversaires, et dans cet état, toujours entre veille et sommeil, elle va avoir un espèce de feedback sur ce qui s'est passé en tranche d'âge. Donc on remonte dans les dates anniversaires, des périodes clés. Bien sûr, il y a lieu d'avoir une anamnèse un peu plus précise avant de démarrer la séance. On ne l'emmène pas immédiatement dans ce niveau-là. On aura fait avant un peu de découvrant, on aura fait surtout une anamnèse. Et on remonte donc par tranche d'âge et on va communiquer avec elle, non à travers le langage, puisqu'elle est dans ce fameux niveau, on ne va pas essayer de l'en sortir, mais à travers des techniques que vous connaissez, les sophrologues, qui sont le signe-signal, où elle va lever l'index pour dire ce qu'elle est en train de vivre quelque chose. On lui laisse le temps de l'abréaction. Hein. Si vraiment c'est trop anxiogène, on peut effectivement lui laisser la parole. À ce moment-là, elle sort de ce niveau. Donc ça, c'est pour ce qui est de la sophromnésie. Et ensuite, il y a la sophro-onirie. On l'emmène dans un voyage. Vous avez par exemple sur le CD qui est le CD numéro 2, mieux-être numéro 2, c'est par exemple la scène paisible, c'est l'arbre. À travers un voyage onirique, on l'emmène faire un petit travail. Et on analyse les symboles. Et les symboles, c'est toujours bien sûr en fonction de la propre interprétation de la personne. Donc vous voyez, c'est passionnant. On a des outils tout à fait intéressants que n'a pas développé Caicedo. Mais Caicedo, ben, il en était à ses balbutiements. Aujourd'hui, c'est pareil. Si aujourd'hui, on se réfère à la psychanalyse du 19e siècle, elle a beaucoup évolué. Hein, donc je crois que ce qui est intéressant, c'est de laisser à chacun le mérite de l'ouverture et pas de la fermeture et dire ben, la sophrologie, c'est uniquement les caicédiens, c'est pas tous les autres. Hein, voilà. Ce qui est intéressant. Il y avait encore d'autres questions ? J'en ai plus pour très longtemps, hein, je vous laisse là.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, toujours dans le même ordre d'idée, quelles sont les précautions, ou je dirais impératifs, qu'ils soient éthiques ou qu'ils soient en termes de formation, pour travailler en sophrologie découvrante?
Alors, bien sûr, la condition sine qua non, c'est un travail sur soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à travailler dans l'inconscient si on n'a pas, je dirais, soi-même fait un parcours. Ça passe par un parcours analytique, ça passe par un travail sur soi, quel qu'il soit. Mais c'est évident que dans la relation contre-transférentielle, n'oublions pas que c'est la rencontre entre deux inconscients. Vous venez avec votre symptôme, imaginons que vous ayez un thérapeute pas ou peu au clair avec lui-même, il y a projection de symptômes, donc vous êtes bien content, vous avez votre symptôme, puis vous repartez avec celui du thérapeute. Bon, je schématise un petit peu, mais c'est évident que par respect de soi et de l'autre, il y a un travail analytique, un travail sur soi, quel qu'il soit, mais un travail pour être au clair avec soi-même. Parce que je pense que l'une des contre-indications premières à la sophrologie, à la pratique de la sophrologie, elle est d'ordre iatrogénique, c'est-à-dire le manque de formation du praticien. Ça me paraît fondamental. Donc effectivement, c'est continuer. Ce travail, il est permanent. Il est permanent, il y a des sophrologues qui s'installent, qui ont besoin d'être supervisés, d'avoir un lieu de supervision. C'est vrai que ce n'est pas paradisiaque, hein, tous les jours, c'est difficile. Nous recevons, nous sommes surface de projection. Nous recevons, donc en recevant effectivement toutes ces projections, on a besoin nous aussi d'avoir un lieu d'évacuation. Un lieu d'évacuation au début de la pratique, hein, qui peut être un lieu de supervision, qui peut être la possibilité de continuer une tranche d'analyse, et puis qui peut être aussi un lieu de créativité. On a besoin d'avoir des lieux, hein, où on peut effectivement expulser tout ce... C'est pas toujours facile.
Concrètement, est-ce qu'il faut être psychothérapeute? Est-ce qu'il faut être psychanalyste? Je veux dire, au niveau de l'éthique, c'est une chose, oui. De la loi, c'en est une autre. Et corollaire à ma question, sous quelle appellation peut-on s'installer ?
Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun diplôme d'État en sophrologie, aucun. Lacan disait « on ne s'autorise que par soi-même » pour la psychanalyse. Eh bien, en sophrologie, c'est évident, on y va lorsqu'on est prêt. hein, dans la mesure où il n'y a pas de diplôme d'État. C'est un on va vers une réglementation à la matière. Hein. Il y a de plus en plus de psychothérapeutes aujourd'hui qui s'installent sous couvert de cette notion de globalité psychothérapeute. Il y a des gens qui mettent psychothérapeute, voyance, etc., magnétisme, il y a un peu de tout. Donc je crois que ce qui est important, c'est déjà la valeur de la personne. Pour moi, les diplômes ont une importance, c'est sûr, mais ce qui est important, c'est la valeur de la personne. C'est le respect qu'elle a de l'autre, hein, du grand autre et de l'autre. Donc c'est important. Donc l'éthique, c'est déjà effectivement ne pas s'autoriser hein, de transgression, de passage à quel qu'il soit, et puis se dire est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que mon parcours est suffisant pour me permettre d'utiliser ces techniques découvrantes. Mais la base, c'est quand même un travail sur soi. Comment peut-on avoir la prétention de vouloir aider l'autre si on n'a pas analysé soi-même ses propres mécanismes de transfert et de contre-transfert? Qu'en pensez-vous? Oui. Voilà, je ne veux pas monopoliser plus longtemps la parole. Y a-t-il encore une dernière question?
Si j'ai bien compris, la sophro-analyse, en fait, c'est une arme complémentaire dans une analyse. On doit s'assurer que le patient est une... Soit suivi en dehors, non, parce que c'est très bien d'ouvrir cette boîte noire, mais il faut pouvoir la refermer après.
Alors, si effectivement le sophrologue et psychothérapeute a une formation analytique, c'est évident qu'il peut accompagner. Hein. S'il n'a pas cette formation, à ce moment-là, il peut passer la main, effectivement, et envoyer soit un psychiatre, psychothérapeute, ou un psychanalyste, ou un psychiatre, tout simplement. Donc, encore une fois, c'est en fonction de sa formation. Et puis, on n'y va que s'il le demande. Hein. Si telle n'est pas sa demande, vous savez, il y a des gens qui sont... Pourquoi ils vont voir un sophrologue? C'est pas forcément... Ils iraient peut-être voir un psychanalyste, mais ils n'ont pas envie. Donc, pourquoi forcément avoir recours à cette technique si la personne n'est pas prête? On n'y va que si elle en émet le désir. Voilà, merci. Merci à l'intervenant de m'avoir laissé quelques minutes supplémentaires. C'était important parce que ces questions nécessitaient effectivement un petit éclairage. Merci.
Merci, madame.